France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Vous avez peut-être vu que la statue de cire d'Emmanuel Macron au musée Grévin vient d'être dévoilée. Et elle est très réussie, car elle ne ressemble pas du tout à son modèle. Voilà, hein, c'est le style Grévin, en fait, quoi. Hein, le président de la République est un mélange entre une sorte de grand brûlé et un action man. Voilà, au moins, on respecte son en même temps, et c'est déjà ça. Et eux, ils prient pour ne jamais avoir leur statut au musée Grévin, et ce sont les informés de France Info. Reçoivent Marion Mourgue, bonsoir.
Bonsoir,
du Figaro. Également, le restaurateur Xavier de Namur, bonsoir.
Bonsoir.
Pascal Blanchard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien. Et également, Erwan Lenoir, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre de la Fondapol et professeur à Sciences Po. Et ce soir, on parlera de la France, paradis des dividendes, d'Edouard Philippe, un an à faire exploser la droite, de Jérôme Cahuzac qui prend du ferme. Mais juste avant, nous recevons Stéphanie Latt-Abdallah. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes historienne et politologue, spécialiste de la question israélo-palestinienne. Et avec vous, nous allons revenir sur la suite de cette journée d'hier, hein, donc qui a vu la mort de près de 60 manifestants palestiniens. Israël doit faire face depuis 24 heures à une vague de réprobation, notamment de Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la Suisse, qui soutiennent l'idée d'investigation lancée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dès fin mars. La Turquie a demandé à l'ambassadeur israélien de retourner, je cite, dans son pays pour un certain temps. La Ligue arabe a appelé le procureur de la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête sur, je cite, les crimes de l'occupation israélienne. Aujourd'hui, l'allié inflexible américain n'a pas lâché l'État hébreu, bien au contraire. On écoute l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley.
Qui parmi nous accepterait ce genre d'agissement à ses frontières ? Personne. Aucun État n'aurait agi avec plus de retenue qu'Israël. Les rapports de plusieurs pays présents ici aujourd'hui laissent même penser qu'ils auraient fait preuve de moins de retenue encore.
Voilà, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Alors, Stéphanie Latt-Abdallah, est-ce que cette répression aujourd'hui peut avoir un impact sur le long terme, sur les relations régionales notamment ?
Sur les relations régionales, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que ça peut avoir un impact, en tout cas sous la manière dont Israël est perçu à travers le monde, puisque quand même il y a un facteur un peu d'isolement qu'on peut constater. Il y a quand même une critique assez forte qui est portée par la communauté internationale, même si elle n'est pas suffisamment forte. Et il est certain que cette répression, laissera des traces dans la mesure où on ne peut pas imaginer une répression de cette ampleur à l'égard d'une population civile, en fait.
Mais à partir du moment où les Américains, en effet, là, l'ONU disent c'est normal aussi, qu'Israël se défende, est-ce que c'est aussi ça, non, qu'attend Israël le reste, finalement, des réprobations internationales? Est-ce que ça a une importance?
Écoutez, ça n'en a peut-être pas aujourd'hui pour Benjamin Netanyahou, mais j'espère que ça en aura, et ça dépendra aussi de l'ampleur de ces réactions. En tout cas, on constate depuis le début de la politique américaine de Monsieur Trump que c'est une politique jusqu'au boutiste et qui est critiquée. Donc là, je vois pas pourquoi, en fait, à partir du moment où il endosse ça, ça le place dans une quelconque légitimité. Il n'est pas plus légitime à endosser cela qu'Israël ne l'est à le faire.
Et Pascal Blanchard, est-ce que ces réprobations, ça a surpris, c'est-à-dire qu'on a vu la France, bien sûr, qui condamne, en effet, mais un peu timidement, tout de même, non ?
Tout le monde condamne un peu timidement, sauf ceux qui ont retiré pour un temps réduit leurs ambassadeurs. Donc il y a une volonté de dire on n'est pas d'accord, sans pour autant être en rupture totale avec Israël. C'est-à-dire que la hauteur de l'événement et le nombre de morts, et surtout le nombre de blessés, qui est quand même extrêmement important, montre qu'on ne peut pas être insensible à l'événement qui s'est passé. Et en même temps, je ne suis pas sûr que ça modifie totalement les enjeux diplomatiques et les alliances localement. C'est-à-dire que tout le monde se pose non pas la question de ce qui s'est passé, mais de ce qui risque de se passer, et ne sait pas encore où jouer, sur quel curseur. Parce que tout le monde sait qu'en toile de fond de ce qui est en train de se passer, c'est l'Iran,
ouais,
c'est le Hezbollah, c'est la frontière libanaise, c'est pas forcément la réaction potentielle du Hamas, mais c'est peut-être deux, voire trois fronts autour d'Israël, où là, chacun devrait se positionner avec des alliances dont ils ne sont pas forcément à souhaiter. Vous regarderez aussi que l'Arabie Saoudite est très ambiguë sur ses prises de position depuis ce qui vient de se passer en Israël. Donc on sent bien qu'il y a un jeu très complexe diplomatique, et derrière, il y a une hauteur d'une répression qui a été extrêmement violente, qui oblige quand même tout le monde à réagir, donc mollement.
Stéphanie Latabdala, est-ce que on a l'impression, depuis que les États-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien, que d'un coup, il y a eu une montée de tension? Est-ce que cette montée, finalement, elle est progressive et elle était loin des radars médiatiques? Elle est là depuis un certain temps et qu'on n'y faisait plus attention, finalement? Ou c'est arrivé d'un coup?
Non, c'est très progressif et on peut voir depuis 2013, 2014, 2015 où se lance cette intifada, petit soulèvement pour les Palestiniens, intifada des couteaux pour la presse internationale et Israël, la guerre à Gaza en 2014, avant, donc on a une montée progressive et une résurgence de heurts à différents endroits avec, en tout cas, ces marches qui sont organisées à Gaza depuis le 30 mars ne sont pas seules en fait. Il y a des marches du même type qui sont organisées toutes les semaines dans au moins une dizaine de villages en Palestine depuis 2004, 2005, 2006, 2009. Donc non, en fait, ça dépend. Effectivement, depuis la déclaration de Trump, à la fois, la presse s'intéresse beaucoup plus à la question. Et puis, évidemment, en touchant à une ligne rouge, ça a refait surgir des mobilisations. Et par contre, les mobilisations de cette ampleur et de ce type à Gaza, elles, sont nouvelles.
Nouvelles. Oui. Une dernière chose, Stéphanie Latabdala, hier, justement, cette manifestation, elle était au départ forte. Pourquoi ? Pour manifester contre le déménagement de l'ambassade américaine à Jérusalem ou par rapport aux 70 ans de l'État d'Israël ? C'était quoi ?
Bah, c'est un peu tout.
Un peu les deux, ouais,
c'est ça. Un peu tout. C'est une idée de catastrophe qui continue. C'est une idée d'enfermement. C'est des problèmes économiques. C'est aucune perspective d'avenir. Ce sont toutes ces questions en fait que les gens pensent. Il n'y a pas un seul facteur qui va déterminer des mobilisations de cette ampleur en fait.
Et Erwan, non ?
Oui, en deux mots, pardon, si je peux apporter un point.
J'en prie, ouais,
un peu divergent. Effectivement, c'est monté progressivement, mais c'est monté progressivement parce que c'est organisé par le Hamas. On ne parle pas tous les Palestiniens, on parle de la bande de Gaza qui est dirigée par le Hamas, oui. Qui n'est pas un mouvement qui est connu pour être pacifiste. Et les images que vous venez de diffuser montrent bien que ce ne sont pas que des populations civiles, ce sont des gens qui sont armés et qui s'attaquent à la frontière israélienne. Et d'ailleurs, les 15 noms des premières victimes qui ont été publiées sont tous des forces de l'ordre ou des forces armées palestiniennes.
Ouais, c'est fini.
Non, je pense qu'on peut absolument pas voir ces manifestations comme l'expression du Hamas. Que le Hamas ait pris le mouvement en route, qu'il cherche à le coordonner, qu'il cherche à s'en servir pour se revaloriser politiquement, certes, oui, mais ce ne sont pas des manifestations qui viennent du Hamas au départ. Il faut savoir que en Palestine,
pas non plus
les partis politiques sont extrêmement décriés, que ce soit le Fatah et le Hamas. Je peux vous assurer qu'à Gaza, le Hamas ne gagnerait pas aujourd'hui des élections. Et donc, en fait,
tant bien, il en organise pas.
Oui, ça tombe bien, il en organise pas, mais en tout cas, il ne les gagnerait pas. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il suit une société civile parce qu'il n'a pas le choix, parce que sa stratégie des armes ne fonctionne pas. Vous dites que ce sont des gens armés, mais quelle arme ? Vous avez vu des roquettes tirées depuis le début de ces manifestations ? Ils en ont pourtant. Ils ne les tirent pas. Pourquoi ne les tirent-ils pas ? Donc non, je veux dire, le corps et les armes, quelles sont-elles ? Les pierres ou bien les cerfs-volants incendiaires ?
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y revenir dans un instant. Oui. Encore pour une question, l'info à 20h11, déjà du retard. Et oui, c'est Stéphane Milhomme.
En attendant une réunion extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU vendredi prochain, le Conseil de sécurité aujourd'hui s'est montré impuissant. Un deuxième Palestinien a été tué aujourd'hui par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza, proche de la frontière israélienne. Les suites des violences hier de l'armée israélienne qui a tué une soixantaine de manifestants palestiniens. Après l'attentat de la place de l'Opéra samedi dernier à Paris, les parents de l'assaillant sont remis en liberté ce soir en l'absence d'éléments incriminants à ce stade de l'enquête. Son ami proche voit lui sa garde à vue prolongée. Il a été interpellé dimanche matin à Strasbourg. Jérôme Cahuzac condamné, mais il devrait échapper à la prison. La cour d'appel de Paris inflige à l'ancien ministre du budget une peine de 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, 300 000 euros d'amende. Le parquet général annonce qu'il ne formera pas de pourvoi en cassation. Cahuzac reconnu coupable de fraude fiscale, blanchiment et fausse déclaration de patrimoine. Il n'y aura pas de privatisation de la SNCF. La loi sera sans ambiguïté, le Premier ministre Édouard Philippe l'a rappelé au lendemain du 18e jour de grève des cheminots contre la réforme du ferroviaire. Et puis le Ramadan commencera jeudi en France. Une annonce ce soir du Conseil du culte musulman. Le 17 mai, comme la plupart des pays musulmans, la France compte près de 5 millions de pratiquants.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Encore une question sur la situation en ce moment en Israël et dans les territoires palestiniens. À vous, Stéphanie Latabdallah. Là, on a entendu l'ONU qui discute encore de nouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre, justement, encore de l'ONU? Cette situation, il s'est tellement penché sur cette question.
Bah, le problème de l'ONU, c'est qu'il ne cesse de faire des résolutions, mais qui ne sont jamais mises en œuvre. Ouais. Hein. Donc depuis le départ, depuis le plan de partage de 47, depuis l'occupation des territoires en 67, depuis même la dernière résolution, elle, du Conseil de sécurité, qui sont quand même beaucoup plus fortes que celles de l'Assemblée générale de 2016, sur qui réitérait la solution à deux États et donc le partage de Jérusalem, etc., et la fin des colonies, la question des colonies, on ne voit rien qui est mis en place. Donc le problème de l'ONU, surtout avec le veto américain au Conseil de sécurité, c'est que c'est une machine qui est relativement impuissante. Si elle avait pu régler des conflits dans le monde, on n'en serait sans doute pas là, et c'est d'ailleurs malheureux.
Eh bien en tout cas, bien sûr, on suivra âprement ce dossier. Merci beaucoup Stéphanie Latabdallah. Je rappelle, votre dernier livre, c'est Israël-Palestine, illusion de la séparation. C'est publié aux éditions Société Contemporaine. Merci d'être passé ce soir aux informés de France Info. Nous, on va revenir en France. Les yeux dans les yeux, je vous le dis, ce bracelet électronique me serre la cheville, vraiment. Hein, voilà. Alors si vous croisez Jérôme Cahuzac en vacances cet été sur la plage, vous risquez d'entendre cette phrase. L'ex-ministre du budget a donc été condamné aujourd'hui en appel à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. En première instance, Cahuzac avait écopé d'une peine de 3 ans ferme. Cette nouvelle condamnation pourrait permettre à l'ancien cadre socialiste d'éviter la case prison, puisque le droit français prévoit en effet pour toute peine allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et, en l'absence de récidive, la possibilité d'un aménagement immédiat comme un placement sous bracelet électronique. Il devra donc se saisir un juge d'application des peines qui se prononcera sur sa demande. L'écrivain Tom Wolfe, mort aujourd'hui, écrivait dans Le Bûcher des Vanités: « Un mensonge peut tromper quelqu'un, mais il te dit la vérité, tu es faible ». Alors l'avocat Jérôme Cahuzac tente le tout pour le tout. On écoute Éric Dupond-Moretti.
On estime que ce n'est pas une victoire de la défense, mais que c'est une réelle victoire de la justice, parce que cette décision est équilibrée. Évidemment, Jérôme Cahuzac, comme nous l'avons dit, ne mérite pas la prison. La prison s'est fait évidemment pour sanctionner, s'est fait aussi pour réinsérer, et là en l'occurrence ça n'a pas de sens, s'est fait aussi pour mettre les gens dangereux à l'abri et à l'écart, et très franchement là non plus ça n'avait pas de sens.
Voilà, l'avocat de Jérôme Cahuzac, Éric Dupond-Moretti. Marion Maugue, on a tout de suite vu des commentaires. Pour beaucoup, une nouvelle fois, on entend, il y a ce sentiment, voilà, que les puissants échapperaient à la prison.
Là, c'est pas faux, parce que c'est quand même assez incompréhensible, alors qu'il encourait une peine de 7 ans, qu'il s'en sorte plutôt pas mal. Et c'est vrai que c'était quand même une faute très grave, surtout qu'il était ministre, ouais. Et que donc, parce qu'il était ministre, il y avait une rupture de confiance qui s'est installée entre les citoyens et le gouvernement à ce moment-là, et ça a laissé des traces pour le quinquennat. Donc c'est peu compréhensible que ce soit aussi léger, et en plus, il échappera a priori de fait à la prison, puisqu'il y aura un aménagement de peine.
C'est ça, oui. Xavier de Namur, pour vous aussi, c'est le fait qu'il ait été ministre aujourd'hui, finalement, n'est pas la peine exemplaire?
Bah, il est clair que, de toute manière, le problème, c'est que ça nous aurait coûté des thunes, parce que si on met tous les VIP dans les prisons, il serait, si on l'avait mis à Villeneuve-sur-Lot, il y a une prison qui est pas, parce qu'il avait peur, en fait, d'aller en prison. À Villeneuve-sur-Lot, la prison n'a pas une réputation d'être super bien tenue, très propre, et la bouffe n'est pas géniale. Donc, je pense que là, ça le faisait flipper. D'ailleurs, ce que j'aurais trouvé drôle.
Villeneuve-sur-Lot, où il était élu. Hein.
Où il était élu, parce que c'est là qu'il aurait dû être en prison et pas à la santé dans le carré VIP. Mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, quand il était ministre, il aurait pu se préoccuper, tiens, d'ailleurs, ministre du budget, des budgets des prisons, pour voir qu'on améliore un peu les trucs. Donc là, il en a un peu peur. Donc là, effectivement, Dupond-Moretti, il joue son rôle comme d'habitude en disant que la justice a bien fait son boulot, etc., que c'est équilibré. Moi, je trouve qu'il aurait pu aller jusqu'au bout du truc. C'est-à-dire qu'on aurait pu déjà le taxer de 375 000 euros, taxer au moins un portefeuille. Et puis,
là, c'est 300 000.
Comment? Ouais, c'est 300 000, ils ont pas été jusqu'au bout. Après, le mettre en prison, bon, effectivement, alors, d'un point de vue de la population, on peut dire oui, c'est encore, ils échappent, mais est-ce que si ça avait été quelqu'un de normal qui n'était pas un ministre, est-ce qu'il aurait été en prison pour une fraude fiscale? C'est pas sûr non plus, parce
que... Mais la question inverse est possible aussi. Est-ce qu'il aurait eu une peine, entre guillemets, aussi légère?
Je pense pas que, enfin, moi, je connais pas le droit vraiment sur la fraude fiscale, mais la plupart du temps, alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, alors dans ces cas-là, tous les cols blancs vont en taule. C'est-à-dire que tous ceux qui truandent sur l'optimisation fiscale, etc., ils devraient aller en taule. C'est pas le cas encore.
Erwan Nenon, sur justement sur ce verdict aujourd'hui. Pour vous, il est juste ou il est comme pensent certains en disant ah ben encore un, voilà comme on dit.
Honnêtement, j'aurais du mal à me prononcer sur savoir s'il est juste ou pas. Enfin, c'est le rôle de la justice,
bien sûr,
elle l'a fait. Et honnêtement, je suis pas à la place des juges. Et donc, je suis assez d'accord avec ce que disait Xavier Denemur à l'instant. Les juges ont rendu leur décision. Après, la faute de Cahuzac, pour moi, elle est politique. Enfin, c'est il y a une faute qui est judiciaire, qui est pénale, judiciaire. Et il a eu un jugement. Et puis il y a une faute qui est politique, qui est énorme parce que qui implique lui ce qu'il a fait. Il a menti aux parlementaires, mais il est quand même pas pour rien dans la crise de crédibilité et du gouvernement de François Hollande à l'époque. Et je pense que ça a été une nouvelle étape très marquante dans la chute de crédibilité des responsables politiques français.
Ouais, Pascal Blanchard, c'est tout ça aussi qu'on a jugé aujourd'hui, on appelle
Non, on a jugé des faits. Il a une peine qui est relativement importante par rapport aux faits, et vous l'avez dit, par rapport à la fraude fiscale. Je pense qu'en France, on ne va pas reprocher à quelqu'un pour fraude fiscale de ne pas aller en prison. C'est-à-dire qu'on fait la différence. Vous l'avez bien dit, il y a l'opinion considère qu'en termes de faute politique, elle est absolue. C'est même ce qu'on peut trouver le plus inacceptable qu'un de nos élus, et en plus sur le budget, nous ait fait la morale et en plus s'est trompé. Mmh. Mais il est puni politiquement. Jamais plus il ne pourra réapparaître dans aucun univers, ni public, ni politique. Donc d'une certaine manière, les gens font assez bien, je pense, la part des choses. Vous attendez pas à ce qu'il aille en prison physiquement pour une raison de fraude fiscale. Il n'y a pas crime, il n'y a pas au sens de sang, il n'y a pas un acte de violence. Je pense que les gens font quand même la part des choses entre les deux. Et donc, faut la part des choses entre la justice politique, d'une certaine manière, l'opinion, et la justice, la loi, qui va rendre un jugement que l'on considère quand même comme sévère, quoi qu'on en pense. Si pendant 2 ans, il y a un bracelet, si la peine est aménagée, d'ailleurs, on ne sait pas encore comment la peine va être aménagée. On est en train de préjuger ce que va dire un juge de l'aménagement d'une peine.
Marion Morgan. Attendent surtout de l'équité entre le traitement qu'ils ont et le traitement des politiques, que ce soit ce qu'on appelle des cols blancs ou pas. C'est surtout ça que l'opinion demande. Or, aujourd'hui, quand vous avez Jérôme Cahuzac, dont on a l'impression que finalement...
Mais vous connaissez personne qui, pour fraude fiscale, est en prison aujourd'hui. Vous êtes incapable de me citer un nom.
Ah bah non,
un nom d'une personne qui, pour fraude fiscale, il n'y en a pas.
Est-ce que c'est ça, vous répondez à votre question, alors.
C'est ça le souci, peut-être, parce que est-ce que le jugement de 3 ans ferme en première instance, est-ce que c'était aussi un signal pour tous les fraudeurs du fisc? Est-ce que c'était ça aussi?
Oui, alors c'était un signal. Il pouvait aller jusqu'à 5 ans, je rappelle quand même, c'était maximum 5 ans.
Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était aussi?
Mais alors, c'est vrai que si on voulait taper, alors il y a 2 choses, si on veut arrêter ce genre de choses, que ce soit surtout les politiques qui sont censés montrer l'exemple, fallait effectivement taper fort. Mais je crois qu'on et pour l'instant, effectivement, comme tu dis, Pascal, il n'y a pas eu de cas pour l'instant où on met les gens en prison pour fraude fiscale. Mais si on veut demain taper fort, moi je dis sur des boîtes qui ont, entre autres, pas simplement des politiques, mais aussi des entreprises, etc., bah, il faut taper au portefeuille qui est très fort.
Si Jérôme Cahuzac, ça ne vous semble pas fort comme, avec ce qui s'est passé.
Non, mais il faut
pas monter de plus en plus haut.
Alors, ce qu'on va faire, on va y revenir. Dans un instant, l'info à 20h20, Stéphane Milhom.
L'espace de quelques semaines, Anne-Marie Couder prend les commandes d'Air France en attendant un nouveau président. Cette ancienne ministre d'Alain Juppé, administratrice de plusieurs grandes entreprises, devient présidente non exécutive en pleine crise de la compagnie aérienne. Elle sera épaulée par une direction collégiale. Pour l'instant, les syndicats n'ont pas déposé de nouveaux préavis de grève. L'Assemblée nationale vote l'allongement de la prescription pour les crimes sexuels commis sur des mineurs. Cette durée passe de 20 à 30 ans. Une majorité de députés a adopté la mesure à main levée cet après-midi. C'est un pas extrêmement important pour Marlène Schiappa. La secrétaire d'État porte ce projet de loi contre les violences sexuelles et violences sexistes. 24 heures après les violences meurtrières dans la bande de Gaza, les États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU ont loué une fois de plus aujourd'hui la retenue d'Israël. Tsahal a tué une 60aine de manifestants et blessé plus de 2400 personnes. Le chef de la Ligue arabe condamne ce qu'il appelle les massacres d'Israël. Mariano Rajoy se dit prêt à rencontrer le nouveau président catalan Quim Torra. Le Premier ministre espagnol réaffirme toutefois qu'il reste opposé à toute idée de république indépendante de Catalogne. Et puis c'était l'auteur du Bûcher des Vanités, best-seller adapté au cinéma. L'écrivain et journaliste Tom Wolfe est mort aujourd'hui à New York. Il était une figure également du nouveau journalisme. Tom Wolfe était âgé de 87 ans.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, Jérôme Cahuzac a été condamné aujourd'hui en appel, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Justement, qu'est-ce qu'il en dit, François Hollande, puisque c'était sous François Hollande qui était ministre du budget, premier gros scandale du quinquennat Hollande, un énorme scandale. Et justement, aujourd'hui, il était en dédicace, il y avait un micro à côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a répondu à cette question, François Hollande.
J'avais dit à Cahuzac, j'attendais qu'il dise très clairement ce qu'était la vérité, et il ne l'a pas dite. Et non seulement il avait menti au président de la République, au Premier ministre, mais à la représentation nationale, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Et donc, c'était extrêmement douloureux de voir un homme qui avait des compétences, sans doute beaucoup de talent, et qui mentait effrontément, et qui donc devait subir les foudres de la justice et être écarté. Si j'ai un regret, c'est de ne pas l'avoir écarté plus tôt.
Voilà, François Hollande, non, quand on entend ça, un regret de ne pas l'avoir écarté plus tôt, on se souvient qu'à l'époque, en effet, il avait menti les yeux dans les yeux. Hein, on se souvient, il y avait Jean-Jacques Bourdin, il y avait l'Assemblée nationale également. Il y a eu des traces politiques de ça aujourd'hui. Il y a eu un avant, un après.
Ah oui, je pense clairement. Et pour le gouvernement de François Hollande en particulier, et pour la vie politique française de manière générale, ça a alimenté l'eau du moulin du discours « tous pourris, ils sont pas honnêtes, ils trichent, et en plus ils se moquent de nous ». Moi, je trouve que le président Hollande est relativement gentil avec son ancien ministre. C'est-à-dire que moi, je crois pas qu'il aurait pu l'écarter plus tôt. Genre, je ne sais plus la chronologie exacte des faits, mais il est difficile pour n'importe quel gouvernement d'écarter quelqu'un avant même que soit celui-ci avoué, soit qu'il ait été démontré qu'il a triché. Et donc, de manière générale, les gouvernements ont tendance à attendre au dernier moment, soit évacuer tout de suite la personne, soit d'attendre au dernier moment. Par contre, personnellement, je pensais que le président aurait été plus sévère en disant il s'est moqué de moi et je l'ai un peu en travers de la gorge. Non, il dit bah, écoutez, je constate que ça a été très douloureux.
Alors, il y a eu en effet un problème politique aussi, Pascal Blanchard, mais c'est à partir de là où il y a eu la commission sur la vie publique, la transparence à la vie publique qui a été créée. Voilà, donc finalement, il y a vraiment eu un avant, un après dans tout. À tous les niveaux.
Il y a toujours, de toute façon, dans la République française, des avant et des après. Après avant l'affaire Savinsky, après l'affaire Savinsky. Non, mais c'est comme ça que ça fonctionne
bien
aussi.
Sûr.
C'est-à-dire, à un moment, on sent bien qu'on a besoin de ce type d'affaires aussi pour découvrir des choses qui sont inacceptables et trouver des mécanismes. Regardez, il y aura un avant et un après Fillon. Je veux dire, naturellement, on aura peut-être encore un jour la famille d'un député, d'un sénateur qui travaillera au Parlement ou au Sénat, mais pour un collègue. On n'a toujours pas interdit qu'une fille de sénateur travaille, par exemple, pour un collègue de son père. Mmh. Ben, aujourd'hui, et peut-être que dans 5 ans, il y aura une affaire qui nous scandalisera, et on fera qu'en plus, on ne pourra plus avoir n'importe lequel de ses descendants ou de ses épouses qui travaillent dans la même institution que soi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin aussi de ces scandales pour être des déclencheurs où l'opinion prend conscience de situations qui sont de l'ordre de l'inacceptable. Et en même temps, notre société des médias, qui raccourcit le niveau d'information, qui fait qu'un scandale devient énorme aussi d'une manière beaucoup plus rapide qu'avant en termes d'information, fait qu'à un moment, il y a une prise de conscience de choses qui sont de plus en plus inacceptables dans la société. Et donc, ces scandales sont des détonateurs. Ils continueront à l'être pour améliorer notre démocratie. Et puis, à un moment, ça se relâche. Et hop, ça revient un peu en arrière. Si vous regardez bien ce qui s'est passé sur, on va dire, pour faire simple, un siècle de vie démocratique depuis 1870 en France, d'une manière très subtile, on arrive à détricoter des fois la loi, à retrouver de nouvelles autorisations ou tolérances, et le système se détricote jusqu'au moment où un nouveau scandale fait qu'on resserre la machine.
Alors, Marion Mourgue, est-ce que finalement, François Hollande a été victime de ça? Est-ce qu'il a souffert de ça politiquement, ou alors les Français ont tout de suite imputé à Jérôme Cahuzac en coupant le cordon avec François Hollande?
Il y a eu les deux. C'est-à-dire que sur le volet de l'argent, l'opinion publique n'a jamais eu l'impression que François Hollande s'en mettait plein les poches. Donc là, il y a eu une distinction. Après, sur le côté, sur les traces que ça a laissé pour le quinquennat et donc pour François Hollande, ça a participé aussi à sa chute de popularité et au fait qu'il devenait de moins en moins crédible. Et qu'à partir du moment où il y avait des pièces maîtresses comme Emmanuel Macron, des poids lourds qui émergeaient, bon, bah,
ouais,
on a la comparaison s'installait.
Voilà. C'est ça. Xavier de Namur, pour vous, est-ce que c'était aussi le procès de la fraude fiscale?
Alors, encore une fois, on a entendu tout à l'heure, la ministre de l'égalité hommes-femmes, Marie Chapac, qui a remonté, on a dit, dans une loi pour remonter de 20 à 30 ans la peine pour les crimes sexuels. Ouais. Là, je pense que cette condamnation qu'on peut considérer pas assez, etc., je pense que ça serait un moyen de remonter pour fraude fiscale. La peine, non pas. Je pense qu'il y a question de prison, je pense que 5 ans, ça suffit. Yes. Mais par contre, au niveau du pognon. C'est-à-dire de bien taper là où ça fait mal. Donc, on pourrait monter 1 million, 2 millions d'euros, là, ou 3 millions d'euros, ça, à l'américaine. Bam! Et là, je peux te dire que ça va carrément les soigner.
Erwan, non, oui.
Non.
Oui, mais ce qui est vrai, c'est dans ce procès, le procès a eu une dimension politique très forte, mais y compris au sein du tribunal. De mémoire, le parquet, dans son premier en première instance, avait eu un discours l'un des principaux axes était vous étiez ministre, et d'ailleurs, je crois comprendre que ça a encore été le discours de la justice. Vous étiez ministre, vous aviez donc un devoir particulièrement fort, votre faute est donc particulièrement forte. Donc la dimension politique, elle était là, y compris avec le droit.
Oui, c'est ça. C'est parce que c'était un exemple aussi. C'est parce que c'était un ministre qui était important.
Mais ce qui n'est pas normal, d'ailleurs. Ce qui n'est pas normal, si on veut être, tout le monde doit être égal devant la loi, et je pense que ce n'est pas normal. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il est, il a été ministre que la justice doit être différente. En même temps, on comprend très bien, il y a une pression de l'opinion, il doit même y avoir une pression presque symbolique du droit, parce qu'on regarde que cette affaire va être particulièrement regardée par l'opinion dont sont rendus justice, mais je dirais que sur le fond, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que je trouve que très très bien l'idée qu'on est en train de dire, c'est pas tellement la dureté de la peine, c'est la loi qui est mal faite. Ouais. Quelqu'un qui a fraudé le fisc et devrait être d'abord pénalisé sur l'argent, c'est-à-dire sa notion patrimoniale devrait être sanctionné. Aux États-Unis, vous avez dit qu'ils sont sanctionnés fort. Je rappelle qu'ils sont sanctionnés bien plus fort que ce qu'ils ont détourné.
Alors, allez, on va continuer, nous, de toute façon, à parler de politique, puisque dans quelques minutes, on parlera d'un an d'Edouard Philippe, et oui, déjà, et puis aussi des dividendes très intéressantes pour les patrons du CAC 40. Voilà la suite du programme des Informés de France Info.
Allô?
Bonjour, j'appelle pour l'annonce occasion exceptionnelle BMW.
Ah, vous êtes intéressé?
Peut-être. Vous avez fait les 101 points de contrôle mécanique et les 53 points de contrôle esthétique, comme chez BMW?
Bah, je l'ai juste photographié.
D'accord. Et vous offrez la garantie, l'assistance kilométrage illimitée pendant 24 mois.
Voilà, c'est beaucoup ça.
Et vos conditions de financement?
Ah, c'est paiement comptant.
Bon, merci. Mais pour une occasion exceptionnelle BMW, je vais aller chez BMW.
BMW Premium Selection. Les voitures d'occasion certifiées BMW, c'est uniquement chez BMW.
En mai, Arte vous invite au Festival de Cannes avec une programmation cinéma exceptionnelle. Découvrez ou redécouvrez de grands films qui ont marqué la croisette. Les délices de Tokyo, La vie d'Adèle, Le fils de Saul, L'effet aquatique et de nombreux autres films sur arte.tv. Et rendez-vous demain avec Mustang de Dennis Gamze-Erguven et Amnesia de Barbet Schroeder à partir de 20h50 sur Arte et à revoir sur arte.tv. Arte, ouverture permanente.
France Info Météo, avec les agences meilleurtaux.com, crédit immobilier, assurance de prêt, 260 agences meilleurtaux.com à vos côtés, partout en France.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Un temps changeant demain entre le sud-ouest et les régions de l'est, la matinée sera bien encombrée avec des averses sur le nord-est. L'après-midi, on retrouvera quelques éclaircies bien appréciables, mais il faudra composer avec des averses et des orages du nord-est vers le massif central et les Alpes. On s'en sortira mieux près de la Méditerranée, plus d'éclaircies, mais quelques averses orageuses sur le sud des Alpes et la Corse. Sur le nord-ouest et le nord du pays, là aussi des éclaircies, souvent belles. Quelques ondées l'après-midi, peut-être un coup de tonnerre. Il fera 7 à 13 degrés le matin. L'après-midi, 17 degrés à Cherbourg et Mulhouse, 19 à Rouen, Nice, 21 degrés à Lyon et Bordeaux, 22 à Paris, Châteauroux, 23 au Mans et 24 degrés à Marseille et Montpellier.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivet, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Deux morts de plus ce mardi dans la bande de Gaza, comme les 59 Palestiniens tués hier. Il s'agit là encore de victimes de tirs de l'armée israélienne près de la clôture de sécurité. Les hôpitaux publics gazaouis sont débordés avec plus d'un millier de blessés par balle hier. Gabriel Lazare coordonne sur place le comité international de la Croix-Rouge, comité qui a disposé une équipe dans le principal hôpital de Gaza.
Hier, tous les systèmes de santé a été confronté à un nombre important de blessés qui certainement a dépassé la capacité des hôpitaux pour prendre en charge tous les blessés. Ce n'est pas seulement l'hospitalisation, c'est les blocs opératoires, c'est tous les supporting services, ça veut dire les stérilisations, ça veut dire les landeries, c'est la nourriture, c'est l'eau, c'est l'électricité. Il faut comprendre que ça, c'est lié à un système de santé qui, depuis une année, a des difficultés en termes de ressources, en termes de médicaments, des matériels consommables. Déjà, un système a été fragilisé. En plus de ça, depuis 5-6 semaines, on est exposé à un nombre important. Dans n'importe quel hôpital en Europe a eu des difficultés pour répondre en question des 5-6 heures avec l'arrivée de plus de 400 malades.
Gabriel Lazare du Comité international de la Croix-Rouge, le Conseil de sécurité de l'ONU était réuni cet après-midi pour parler de ces massacres. La représentante des États-Unis a estimé que c'était le Hamas qui en était responsable. Mahmoud Abbas décide ce soir le rappel du représentant de l'autorité palestinienne à Washington. En France, la condamnation en appel de Jérôme Cahuzac pourrait lui permettre d'éviter l'emprisonnement. Sa peine, 2 ans ferme, peut être aménagée, à quoi s'ajoutent 2 ans avec sursis, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. L'ancien ministre ministre du budget reconnu coupable de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Le parquet annonce qu'il n'y aura pas de pourvoi en cassation. Garde à vue levée pour les parents du tueur de samedi, quartier de l'Opéra à Paris. Ils ont été remis en liberté. L'interrogatoire de son ami, lui, se prolonge ce soir. Une minute de silence a été respectée à l'Assemblée nationale en hommage à la victime et aux quatre blessés. Le conseil du culte musulman annonce la date du début du Ramadan. Ce sera après-demain, jeudi, en France. À 20h45, le coup d'envoi d'un match de football entre Le Havre et Brest. Fin de saison chamboulée en Ligue 2. Avec cet affrontement désormais entre le 4e et 5e du classement, le vainqueur affrontera le 3e, c'est-à-dire l'AC Ajaccio, pour avoir le droit de disputer ensuite des barrages et donc espérer une montée en Ligue 1. Une forme de play-off que nous suivrons sur France Info. Et puis la mort de Tom Wolfe, l'écrivain américain, connu principalement pour son premier roman, succès de 1987, Le Bûcher des Vanités. 20h33 sur France Info, la suite des informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés, également sur le canal 27 de la TNT, j'ai un petit chat, pardon, et il gigote, voilà, après une après-midi au soleil, rosée ou insolation d'actualité, le doute persiste, et ce soir, les informés de France Info reçoivent Marion Mourgue, du Figaro également, le restaurateur Xavier Denamur, Pascal Blanchard, historien, et Erwan Lonohan, membre de Fondapol et professeur à Sciences Po. De quoi Emmanuel Macron restera-t-il le nom? D'une révolution manquée ou d'une victoire éclair, d'une trahison misérable ou d'une ambition démesurée, personne ne peut le dire aujourd'hui. Surtout pas l'auteur de ces lignes, en fait, publiées dans Libération le 18 janvier 2017, puisqu'elles sont signées Édouard Philippe. Et oui, voilà. En même temps, quand on ne sait pas qu'on va devenir Premier ministre, on dit des bêtises, personne ne le dit aussi, c'est bête. Alors aujourd'hui, Édouard Philippe fête ses un an à Matignon, un poste, vous le savez, souvent désiré, mais la confrontation au réel est décrite par les anciens locataires comme un enfer absolu. Sauf par Édouard Philippe, qui dans une interview au Monde aujourd'hui explique, je cite, « Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas l'enfer ». Bref, Édouard Philippe, il est cool, quoi. Hein. Seul souci, les Français le savent pas, puisqu'ils ne le connaissent pas vraiment, il est toujours assez peu connu. Ce soir, un documentaire de France 3, c'est le deuxième épisode intitulé « Édouard, mon pote de droite », revient sur la vie d'avant d'Édouard Philippe. Et voilà ce qu'il disait au moment des primaires de la droite à cette époque. Édouard Philippe soutenait Alain Juppé et il y avait aucun problème, Édouard Philippe.
J'ai jamais eu envie de travailler pour quelqu'un d'autre que Juppé. Et quand Juppé était pas là, ça m'a pas donné envie de travailler pour quelqu'un d'autre. Quand je suis devenu député, j'ai vu Copé, j'ai vu Fillon, donc tous les deux demandé de venir. Je vous aime bien les gars, mais c'est pas mon truc. Donc voilà, c'est pas. Et j'aurais probablement végété tout seul dans un coin, et ça ne me pose aucun problème non plus. Mais, je trouve que choisir son patron, c'est pas un acte neutre. Si Juppé était parvenu, s'il avait dit j'arrête, ben. Je serais passé à autre chose. Mmh. J'ai toujours conservé l'espoir qu'il reviendrait parce que je pense que c'est le bon gars, quoi.
Voilà, le bon gars, donc Alain Juppé, je ne sais pas si on peut le parler comme ça. Donc ça, c'est un extrait, donc Édouard, mon pote de droite, Édouard Philippe. C'est une amie quand vous voyez ça.
Alors, moi, ça me fait marrer parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il dit à un moment, on parle de Macron en disant « Non, mais je ne vois pas du tout, lui, il ne va rien faire, etc. Et » Donc ce n'est pas Madame Irma, on peut dire.
Et surtout, il accuse pendant la campagne beaucoup Emmanuel Macron de traîtrise envers François Hollande. Marion Mauque, dans cette interview au Monde, on demande à Édouard Philippe s'il est toujours de droite et il affirme ne plus se poser la question. C'est étonnant quand même, non? C'est dur de renier son passé.
C'est pas une manière de renier son passé, mais c'est vrai qu'il y a eu une évolution. Le jour de la passation de pouvoir, quand il arrive à Matignon, il se revendique comme un homme de droite. Donc il y a un petit bouger sémantique. Après, dans l'interview, il explique aussi que être de droite ou être de gauche aujourd'hui, c'est plus des catégories qui sont très visibles et très parlantes et que la politique a évolué. Donc c'est plus dans ce registre-là qu'il faut le comprendre. Le documentaire en plus le montre bien, il n'a pas évolué sur ses idées. C'est-à-dire que la politique d'Alain Juppé et celle d'Emmanuel Macron, il l'a souvent dit, Édouard Philippe, elles sont assez proches.
D'accord.
Et donc, il se retrouve aussi dans ce qu'il défend aujourd'hui au gouvernement. Donc, il n'y a pas un reniement, mais plutôt une poursuite pour lui avec un autre patron, quand même.
Erwan Lenoran, je voyais ne pas être tellement convaincu.
Je pense que pour Édouard Philippe, il n'y a pas de gap idéologique important entre l'image qu'incarnait Alain Juppé, parce qu'il y avait parfois un décalage entre l'image d'Alain Juppé et ce qu'était concrètement son programme, et ce qu'est aujourd'hui l'image d'Emmanuel Macron et le programme d'Emmanuel Macron. Pardon. Je pense qu'il se retrouve assez entre les deux, parce que les deux sont assez proche, et c'est d'ailleurs ce que leur reproche une partie des opposants, et à Édouard Philippe à droite, et à Emmanuel Macron à gauche, et réciproquement.
Et d'après vous, il est donc juppéiste, hein, on le sait, libéral, convaincu, donc le message était assez clair quand il est nommé à Matignon. Est-ce que sa nomination a fait exploser la droite ou pas, à votre avis?
Alors, d'abord, il faudrait revenir sur la qualification de libéral, mais qui peut se discuter.
Oui, mais, dit, voilà. C'est pour ça.
Non, mais bien sûr. Mais je pense qu'il a surtout en commun avec le président et l'ancien premier ministre d'être des hauts fonctionnaires, d'avoir une vision hauts fonctionnaires de la politique française. Est-ce que c'est sa nomination qui a fait éclater la droite? Pense pas, je pense que
déjà, c'est peut-être la défaite de François Fillon.
Mais voilà, c'est François Fillon qui a fait éclater la droite.
Ça a accéléré un processus, c'est-à-dire que la défaite de François Fillon et aussi la prise de position du Parti Les Républicains dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, avec ce soutien ou pas Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, c'est sûr que ça a accéléré. Et certains se disent aujourd'hui, la nomination d'Édouard Philippe nous a coûté entre 100 et 150 députés républicains. Donc, c'est... oui, il y a eu un effet. Quand
Pascal
même.
Blanchard, pour vous, aujourd'hui, quand on voit, enfin, d'ailleurs, dans le gouvernement, c'est assez étonnant. On voit Édouard Philippe, donc le Premier ministre, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin aux comptes publics. C'est tout ça aussi qui a fait.
C'est eux qui dominent. D'ailleurs, vous venez de le dire, à part, en gros, quelques ministres qui arrivent à peu près à ce qui n'ont pas forcément d'ailleurs d'étiquette de gauche. Vous n'avez pas de grands ministres. Bon, notre ministre des Affaires étrangères, mais il est très peu présent dans les enjeux actuels. On a plutôt l'impression que, voilà, que ce sont plutôt des ministres de droite qui existent et qui font le, je dirais, le tempo du gouvernement. En même temps, sa petite phrase, moi, je la lirai pas de la même manière que vous. Le gouvernement et le président de la République est en train de sentir qu'il y a décrochage d'une partie de l'électorat de gauche. Et notamment, il y a un gros décrochage, et là, on entend parler depuis 15 ou 3 semaines, des jeunes par rapport à Macron. Et des jeunes qui étaient plutôt, on va dire, pour faire ça, qu'aurait voté socialiste. Et là, il y a une inquiétude qui est en train de se passer. C'est bien de vouloir être de droite et de gauche, c'est bien de taper fortement à droite et de dire qu'on est droite pour garder en gros un électorat conservateur et plutôt âgé, mais attention avec les européennes qui arrivent, de perdre toute une partie de l'électorat, pour faire à peu près simple, 50% des gens qui auraient voté certainement ou centre-gauche ou qui auraient voté socialiste, et de ne pas trouver une manière de les retrouver. Et là, on entend une petite sonnerie qui commence à arriver, où... comme ils n'ont pas de solution alternative pour retrouver cet électorat jeune et de gauche, eh ben, ils commencent à titiller. On n'est pas vraiment de droite. Je ne suis plus de droite. Mais... nous ne sommes pas de droite. Attention. Et vous allez voir que pour septembre et octobre, ils vont commencer à mouliner pour trouver des propositions qui vont être perçues ou comprises ou entendues, notamment pour les jeunes et de gauche, parce qu'ils commencent à avoir une inquiétude, c'est les européennes de 2019, parce que la moitié de leur électorat est perdu.
Marion Morgan. Si ce n'est que le réserve de voix aujourd'hui est plutôt à droite pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe.
Ça, c'est un calcul qui ne marche jamais au moment du vote. Alors celui-là...
mais là, ils ont bien siphonné la gauche, et donc il reste la droite à siphonner.
Mais oui, mais on croit, le siphonnage, ça remonte toujours un jour quand l'évier est bouché. Et vous allez voir à gauche, comment la gauche reviendra de toute façon.
Oui, mais un quinquennat, ça dure 5 ans.
Et donc, la gouvernement, peut-être, mais on verra.
Voilà, donc voilà, on parle plomberie de temps en temps. Parce que c'est aussi ça, la politique française, c'est
avant tout
des plomberies. Voilà, si vous êtes fan de Mario Bros, n'hésitez pas à nous écouter tous les soirs entre 20h et 21h. On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhom.
Mahmoud Abbas rappelle le représentant de l'autorité palestinienne à Washington. Ce soir, le président de l'autorité palestinienne prend cette décision 24 heures après l'inauguration de l'ambassade américaine d'Israël à Jérusalem et les violences de l'armée israélienne qui a tué près de 60 manifestants palestiniens et blessé des centaines d'autres près de la bande de Gaza. Après l'attentat de la place de l'Opéra samedi dernier à Paris, les parents de l'assaillant ont été remis en liberté ce soir, en l'absence d'éléments incriminants à ce stade de l'enquête. Son ami proche voit lui sa garde à vue prolongée. Il a été interpellé dimanche matin à Strasbourg et la famille de l'assaillant a vécu plusieurs années dans cette capitale alsacienne. Jérôme Cahuzac condamné, mais il devrait échapper à la prison. La Cour d'appel de Paris condamne l'ancien ministre du Budget à 4 ans de prison, dont 2 en ferme. Le parquet général ne formera pas de pourvoi en cassation. Jérôme Cahuzac est donc définitivement reconnu coupable de fraude fiscale et blanchiment. La SNCF dépose déjà une dizaine de plaintes après des actes d'exaction ou occupation de voies. Le patron Guillaume Pépi l'a dit ce matin sur France Info. La journée d'hier a été très très difficile pour les usagers et aujourd'hui encore, plusieurs trains ont été supprimés au Mans après de nouveaux actes de malveillance. Et puis une enveloppe de près d'1,3 milliard d'euros pour Mayotte. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, l'annonce ce soir, un mois après la crise sociale et qui a touché cette île. Un argent pour financer 53 engagements pour la vie quotidienne, sécurité, santé, éducation ou infrastructure en tête.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des un an d'Edouard Philippe à Matignon. Et oui, c'est aujourd'hui et c'est un drôle de parcours hein, puisque lui-même avait soutenu Alain Juppé dans la primaire de droite. Il se retrouve aujourd'hui Premier ministre d'Emmanuel Macron à la fois et de droite et de gauche, plus de droite aujourd'hui, justement on en parle. Xavier de Namur, est-ce que pour vous ça vous pose un problème que le Premier ministre soit finalement peu connu des Français? On se souvient qu'il a été connu des Français à partir du moment où il a fait l'émission politique sur France 2, véritablement un détonateur. Est-ce que c'est un problème?
Alors non, c'est pas un problème en soi. Je rappelle quand même que Jean-Marc Ayrault, il y en a beaucoup, les tenards, je demandais à ma comptable, vous vous souvenez, c'était quoi le Premier ministre sous Hollande? Le premier, ça ne savait plus.
On se souvient de Manuel Valls.
Mais Ayrault, donc après, est-ce que Edouard Philippe, c'est un peu un héros jeune? Je sais pas, on verra bien. Mais une chose est certaine, c'est que moi, je pense pas qu'ils ont, contrairement au sujet qu'on a lancé, qu'ils ont fait exploser la droite. Je pense qu'ils ont fait réellement, en mettant des ministres comme ça, une OPA. Effectivement, si on parle de la Startup Nation, ils ont fait une OPA sur la droite. Par contre, à gauche, ouais, je trouve qu'ils ont plutôt fait exploser la gauche. C'était un peu le bordel à gauche. Et là, c'est ce qu'ils ont réussi. Alors, maintenant, justement, comme il n'y a rien à gauche vraiment, bon, après, il y a les Insoumis, mais ça ne fait pas grand-chose. Le PS, ils sont morts. Hamon est mort. Donc, c'est pour eux, ils ont tout réussi. Enfin, pour l'instant, ils réussissent tout. Alors que leur politique est plutôt de droite et de droite. Hein. Moi, je trouve que même s'ils ne vont pas à l'extrême droite, c'est-à-dire tout ce qui est du côté de Wauquiez, tout ça, ça c'est aussi. Donc, pour l'instant, c'est un peu à sans faute. Donc, Edouard Philippe, moi, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais ça marche.
Erwan Nenon, quand on voit que les Français perçoivent de plus en plus La République En Marche comme un parti de droite, ça veut dire qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de faire exploser la droite, est-ce que La République En Marche est petit à petit en train de remplacer justement les Républicains sur des termes notamment économiques? On a vu qu'ils étaient assez proches.
Alors, mais moi, je rejoins un peu ce que dit Xavier Namur à l'instant. Je pense que d'abord, ils ont pris la place de la gauche. Et aujourd'hui, pour l'élection en 2017, et aujourd'hui, la gauche est par construite. Donc, aujourd'hui, même si En Marche est perçu plus à droite, ils occupent l'électorat, la place électorale de la gauche.
Oui, mais regardez des réformes, par exemple, sur l'ISF, la réforme de la SNCF, bien sûr.
Je suis tout à fait d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ils sont positionnés à droite, mais en même temps, ils débordent bien à gauche, parce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, l'électeur de centre-gauche ou quelqu'un qui votait socialiste n'a pas d'alternative crédible pour voter pour un parti qui arriverait au pouvoir ou qui pourrait gagner les élections. Et puis à droite, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, leur projet, c'est de continuer à aller démanteler la droite et de la cornériser progressivement. C'est assez bien réussi sur les thèmes économiques. C'est-à-dire que la droite libérale, aujourd'hui, je suis pas convaincu qu'elle se retrouve complètement dans le discours de Laurent Wauquiez, qui ne parle pas d'économie, ou quand il en parle, c'est pour dire qu'il faut fermer les frontières, le commerce international, c'est affreux, et qui se retrouve sur un discours qui est majoritairement identitaire. Et effectivement, progressivement, La République En Marche, je sais pas si elle est à droite, mais elle arrive à progressivement cornériser de plus en plus sa gauche avec Mélenchon et cornériser aussi la droite et les LR.
Marion Mourgue, est-ce que Edouard Philippe, il a un poids politique?
Il commence à en avoir un. C'est-à-dire que c'est un cas très particulier où un Premier ministre arrive sans troupes, sans gros poids politique, parce que même Alain Juppé n'avait pas imaginé le mettre à ce poste-là. Et il a réussi à s'installer. Il est très apprécié des députés et il continue d'avoir ses réseaux à droite, avec notamment les maires qui reçoit régulièrement. Donc oui, il commence à s'installer, mais il dépend évidemment du président de la République.
Ça voudrait dire qu'on pourrait de nouveau retrouver une guerre Matignon-Élysée comme on l'a toujours retrouvée jusqu'à présent ou pas?
Non, là, c'est aussi la grosse nouveauté de ce quinquennat, c'est qu'Edouard Philippe, il n'a pas d'ambition de devenir président alors que de multiples exemples.
Edouard Balladur n'avait aussi aucune ambition de devenir président de la République, rappelons-nous, au début de son investiture. Donc ça peut toujours être...
Bien sûr.
Non, mais un des risques...
Mais juste, pour répondre à votre question de tout à l'heure, et ça renvoie aussi au poids politique d'Edouard Philippe, c'est que peut-être qu'En Marche prendra l'espace à droite, mais ça, on le saura au moment des municipales. Et c'est vrai que si les municipales...
Européenne.
Surtout les municipales, parce que vous avez des listes, et que quand vous avez des listes, vous en prenez à droite,
les LR, etc. D'accord, mais on verra le poids de la droite, la droite classique, on va dire, de l'extrême droite, de la gauche. Et là, il y a une redistribution qui est plus, on va dire, pas équitable, mais qui fait moins le jeu des baronnets locaux. Donc on va voir ce que pèse En Marche sur une élection ouverte.
C'est pour ça qu'En Marche est déjà parti sur les municipales.
Et bien sûr, ils ont plus d'avance que tous les autres.
Et que l'un de leurs objectifs est notamment, comme vous disiez, de récupérer des candidats ou sur des listes de gens de droite pour dire, vous voyez bien qu'on qu'on continue de.
Vous verrez que ça va être peut-être plus surprenant que ça. Moi, je ne suis pas persuadé que justement c'est ce qui va se passer. Vous voyez bien que la tête de liste qui était à un moment annoncée pour Juppé, le débat n'existe plus là en ce moment.
Ils sont en train de réfléchir.
Européennes. Ils sont en train de réfléchir à quelque chose qui peut justement. C'est la continuité de l'idée de Macron depuis le début, de plaire à ces deux entités, à ces deux piliers. L'une des plus grands risques, c'est pas qu'à gauche émerge quelque chose, c'est qu'un jour, En Marche explose en deux.
Ouais.
Le plus grand risque qui peut arriver à En Marche, quand vous avez un parti monolithique comme celui-là, c'est que ce parti, sur, et on l'a vu, rappelez-vous, sur le débat sur l'immigration, pour la première fois, une fissure arrivée, donc très très tôt. Dès la première année, une fissure qui a pu être très bien colmatée par le gouvernement et trouver l'équilibre, mais vous pouvez très bien imaginer que dans deux ans, ce mouvement, ce parti et ses députés s'éclatent en deux et forment justement une nouvelle gauche.
Pour terminer, ouais,
non, j'entends effectivement, il y a des tensions qui montent. Je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à la rupture, parce que les députés quand même doivent tout au président de la République. Ils n'ont pas d'existence politique sans lui aujourd'hui.
Nous sommes d'accord aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Ouais, on verra en tout cas pour la suite. Allez, on va parler un petit peu d'économie parce que. C'est assez pénible, chaque année à la même époque, c'est le même problème. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire des bénéfices de mon entreprise classée au CAC 40 hein. Oh là là, on n'imagine pas les angoisses que ça procure. Distribuer les bénéfices aux employés, bon arrêtez, ils pourraient s'habituer, c'est bête. Hein. Telle est l'impression que l'on peut avoir en lisant le dernier rapport de l'ONG Oxfam. Selon cette étude, les groupes français ont reversé plus de 2/3 de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes, soit 2 fois plus que dans les années 2000. Les richesses n'auraient jamais été aussi mal partagées depuis la crise au sein des grands groupes qui choisissent délibérément une course aux résultats de court terme pour conforter les actionnaires. Alors, le sidérurgiste ArcelorMittal, l'énergicien Engie, leader mondial de la gestion de l'eau Veolia, sont dans l'ordre ayant les taux les plus élevés de redistribution des bénéfices en dividendes aux actionnaires. La porte-parole d'Oxfam, Manon Aubry.
On a calculé que si les entreprises du CAC 40 maintenaient le même niveau de rémunération des actionnaires qu'en 2009, donc elles payent leurs actionnaires un niveau de dividende satisfaisant. Et si elles avaient consacré le surplus de bénéfices à la rémunération des salariés qui ont produit ces richesses, les salariés auraient pu voir leurs revenus augmenter de 14 000 euros sur la période. Imaginez ce que ça représente, hein, c'est à peu près 2 000 euros par an pour chaque salarié de ces entreprises du CAC 40. C'est une question de choix économique. Et on voit qu'en la matière, les entreprises du CAC 40 ont fait le choix des actionnaires plutôt que celui des salariés.
Voilà, Manon Aubry, porte-parole d'Oxfam. Non, je le voyais bouillir pendant ça. Donc pour vous, ce n'est pas le choix des grands patrons par rapport aux actionnaires,
non, mais
par rapport aux employés.
Ce qu'elle dit, on peut interroger la répartition du travail, de la valeur en France. Très bien. Mais là, c'est ce qu'elle a raconté, cette dame, c'est absolument n'importe quoi. Parce que les dividendes dont on parle, ça n'affecte pas les salaires, puisque les bénéfices sont là une fois, on a les bénéfices une fois que les salaires ont été payés. Donc, si on peut très bien augmenter les salaires et baisser les bénéfices. Mais là, quand elle nous dit qu'il faudrait les répartir, les bénéfices, pour que ça fasse plus de salaires, c'est pas vrai. Elle, dans leur rapport qui d'ailleurs est plein de contradictions méthodologiques.
Il est très critiqué par certains.
Mais c'est absolument n'importe quoi d'un point de vue méthodologique. Le rapport est capable de dire à la fois il faut rémunérer les salariés en leur donnant des dividendes, c'est-à-dire il faut qu'ils deviennent actionnaires, et puis à la page d'après en disant attention, les actions c'est hyper dangereux, il ne faut surtout pas le faire. Il n'y a aucune cohérence dans ce rapport. Après, il y a un sujet, comment on répartit la valeur en France.
On va parler de ça, Xavier de Namur, juste au début, quand vous avez entendu ça, pour vous, c'est quoi? C'est un rapport faussé, mais quand même, on voit quand même un constat qui est assez flagrant là, non?
Alors, moi, je n'ai pas lu le rapport, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, moi, je n'ai pas lu, donc j'ai entendu, effectivement, on reprend l'idée de Sarkozy qui disait un tiers, c'est-à-dire un tiers pour les salariés. Donc, des bénéfices, je parle de redistribuer, alors pas sous forme de dividendes, mais sous forme de primes, etc. Un tiers pour l'investissement et un tiers, effectivement, pour les actionnaires, ce qui me paraîtrait, ce n'est pas une idée tout à fait con de Nicolas Sarkozy à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai souci, parce que je rappelle quand même que En Marche, M. Macron, a fait quand même la flat tax, c'est-à-dire que maintenant, les dividendes, c'est jackpot pour eux, parce qu'il y a eu des gros dividendes qui ont été distribués, mais là, maintenant, on ne paye plus que 30%. Moi, pour ceux qui gagnaient beaucoup de pognon, ils avaient 45 voire 49% sur leur plus la CSG, donc ça maintenant c'est la flat tax. Il y avait de l'ISF sur les revenus, enfin sur les actions, il y en a plus. Donc c'est vrai que là du coup on peut dire que les grosses boîtes du CAC 40, elles auraient peut-être pu faire un effort en disant tiens, on va redistribuer un petit peu aux salariés, et puis même plus de pognon sur l'investissement, parce que ça c'est long terme.
Alors, on va en parler dans un instant, l'info à 20h51, Stéphane Milhomme.
Une prolongation de 24 heures pour la garde à vue du sexagénaire arrêté hier soir à Créteil dans le Val-de-Marne. Selon France Bleu Paris, cet homme qui conteste les faits est suspecté d'avoir tenté d'enlever hier dans sa camionnette 2 frères d'une dizaine d'années, mais également un autre enfant la semaine dernière. L'ancien ministre Jérôme Cahuzac, condamné à 2 ans de prison ferme, il devrait échapper à la prison, décision cet après-midi de la Cour d'appel de Paris, qui lui inflige également une peine de 2 ans avec sursis, 300 000 euros d'amende. C'est un arrêt exemplaire pour Transparency International, un arrêt qui met fin au sentiment d'impunité selon cette association qui lutte contre la corruption. Un deuxième Palestinien a été tué aujourd'hui par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza, proche de la frontière israélienne. Les suites des violences hier de l'armée israélienne qui a tué une 60aine de manifestants palestiniens et blessé plus de 2400 personnes. Plusieurs pays exhortent aujourd'hui la Cour pénale internationale à lancer une enquête. Réaction également en France. Le théâtre de Chaillot est opposé au boycott des artistes israéliens. Didier Deschamps, le directeur de la scène nationale parisienne, refuse d'assimiler les artistes et notamment une compagnie de danse israélienne qui viendra pour sa nouvelle saison à la politique menée actuellement par l'État hébreu. La CGT participera à la journée Marée humaine du 26 mai organisée par la France Insoumise. Une nouvelle journée de mobilisation contre la politique d'Emmanuel Macron. 78 structures du syndicat se sont prononcées pour aujourd'hui. Plusieurs partis de gauche et associations avaient déjà confirmé leur participation il y a quelques jours.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons du rapport de l'ONG Oxfam. Selon cette étude, les groupes français ont reversé plus de 2/3 de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes. Pascal Blanchard, est-ce que c'est vrai que ce genre de constat aujourd'hui peut creuser aussi certaines failles dans la société sur ces différences de salaire? On le voit, les PDG du CAC 40 gagnent en moyenne 257 fois le SMIC, 119 fois plus que la moyenne de leurs salariés.
C'est pas le même sujet. Le salaire des PDG et la redistribution des bénéfices, je pense que les Français sont assez lucides maintenant. On va dire qu'il y a une époque où le monde du patronat et la classe ouvrière étaient tellement à des années-lumière qu'ils n'avaient pas forcément conscience, c'était une affaire de classe. Là, aujourd'hui, les gens sont très informés des niveaux de salaire, sont très informés des niveaux de redistribution des actionnaires, entendent parler en plus de scandales de temps en temps, ou d'AG, ou de débats. Les affaires Bolloré, par exemple, avec des redistributions énormes sur des groupes qui auraient été dépecés. Donc, les gens entendent extrêmement parler. Et je pense qu'il faut la différence entre les deux. La première chose, c'est qu'il y a des niveaux de salaire que certains jugent inacceptables. Mmh. Inacceptables, par exemple, pour ceux qui ne sont pas des fondateurs d'entreprises. Par contre, personne ne va venir crier sur un Niel qui a créé toute sa richesse. Vous regardez, les gens font quand même bien la différence entre celui qui a été un entrepreneur, qui a créé sa richesse, qui est parti souvent de rien, ou de peu. Et celui qui, quelque part, hérite d'une entreprise sans jamais l'avoir construite parce qu'il est désigné et va avoir un salaire 55 fois celui d'un cadre moyen d'entreprise. Là, déjà, vous avez un discours. Mmh. Et à côté de ça, vous avez un débat qui est beaucoup plus fort en ce moment sur la notion d'entreprise, par exemple, qui ne paye aucun impôt en France, qui fait beaucoup plus scandale que le fait de savoir que les actionnaires touchent des dividendes. Je pense que la dimension de rétribution des actionnaires dans les entreprises est rentrée dans les mœurs, je veux dire, des opinions publiques. Beaucoup plus qu'on peut l'imaginer.
Oui, mais ce qui est dur, c'est toujours de voir cette différence aussi.
Oui, mais personne ne fait une grève dans la rue pour ça. Ouais. Même Mélenchon n'arrivait pas à faire que des gens iraient dans la rue. On a compris que des actionnaires, c'était la base pour qu'une entreprise fonctionne. Mm. OK. Surtout que, par contre, on trouve inacceptable qu'une entreprise en France, qui aujourd'hui fait de l'argent en France, ne paye pas d'impôts en France. Mm. Là, les gens ont raison, d'ailleurs, sur ce sujet-là. Bien sûr, ouais. Ils ont accepté la règle du jeu, en fait, libérale et d'un capitalisme mondialisé.
Marion Morgan.
La prochaine loi de Bruno Le Maire, qui est un peu retardé du fait de l'embouteillage à l'Assemblée, justement prévoit de développer les mécanismes de participation et de redistribution dans l'entreprise.
Mais qui sont indispensables pour motiver tout simplement une équipe, une entreprise. On l'a dit pareil, une entreprise qui ne sait pas investir dans la recherche, dans le développement, elle meurt. Et vous avez vu, les entreprises meurent de plus en plus vite aujourd'hui. Comme d'ailleurs, des mastodontes arrivent à être des tailles mondiales très rapidement. C'est-à-dire que le temps de l'entreprise s'est accéléré. Donc une boîte qui aujourd'hui ne sait pas investir, vous avez des entreprises, vous savez ce que ça veut dire, investir. Non mais pensez, si vous ne motivez pas vos troupes, elle se casse.
Ben oui, mais c'est ça le problème. C'est l'investissement.
Xavier Denavio. Le patron est puni lui-même s'il n'est pas à la hauteur des enjeux.
Xavier Denavio.
Alors, moi, effectivement, je suis chef d'entreprise depuis une trentaine d'années. Voilà. J'ai des salariés qui sont avec moi depuis une trentaine d'années.
Et vous êtes au CAC 40 ou pas?
Alors, je ne suis pas au CAC 40, je suis même pas en société parce que je suis en nom propre. Ouais. Mais j'essaye en sorte, effectivement, de motiver les troupes, de garder mes salariés. Donc, moi, j'ai 45% de masse salariale. Donc, j'ai moins de bénéfices peut-être que d'autres boîtes dans mon secteur, bien que j'en ai. Mais on a une grosse masse salariale parce qu'on considère qu'il faut effectivement faire progresser et redistribuer. Moi, je te redistribue sous forme de salaire, parce que je suis en nom propre, donc j'ai pas de dividendes. Donc j'ai pas d'autre solution que de, et puis d'investir, effectivement, et d'avoir aussi quand même, faut pas oublier, les boîtes, on doit avoir de la trésorerie pour voir, quand on a eu les attentats, etc., bah moi j'ai maintenu tous mes salariés.
Restaurateur, ouais, c'est pour ça.
C'est voilà.
Erwan, non, juste une chose, est-ce que ça n'accentue pas aussi finalement, voilà, ces différences, quand on voit ces différences salariales, entre un salarié, un grand patron, c'est vrai que ça peut, au départ, choquer. On voit à chaque fois qu'il y a des rémunérations de grands patrons qui sont augmentées, on a parlé récemment de PSA ou des choses comme ça, à chaque fois ça fait scandale parce qu'on est étonné quand même par le prix, le coût et l'argent que ça brasse, quoi.
Oui, mais je suis d'accord avec ce qu'on disait à l'instant, je pense que dans l'opinion publique l'opinion publique fait vraiment la différence entre les entrepreneurs qui sont faits eux-mêmes, qui ont réussi, et ceux qui sont plus des grands patrons arrivés par un grand patron de carrière, et ça a changé aussi du côté des actionnaires. Vous avez de plus en plus d'AG qui se passent difficilement parce que justement maintenant que vous avez la pratique qu'on appelle le say on pay, où les actionnaires votent sur la rémunération des dirigeants, il y a un certain nombre de dirigeants qui sont fait retoquer, et ça s'était jamais vu avant. Donc c'est le rapport, ce rapport-là aussi évolue.
Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup Pascal Blanchard d'être passé ce soir. Merci Xavier de Namur, Erwan Nonon également. Merci Marion Mourgue, la Une du Figaro.
Demain. Sur le début du Ramadan et l'arrivée de 300 imams étrangers.
Très bien, à retrouver demain dans le Figaro. Et voilà, hop, apparaît comme ça incroyable Jean-François Akili. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour tout est politique au programme ce soir.
À la Une, nous revenons sur l'affaire Cahuzac et conséquences, mais il y aura d'autres sujets avec nos invités. Marc Fesneau du Modem, Annie Genevard des Républicains, avec Gabriel Siri du Parti Socialiste et Jérémy Pelletier de la Fondation Jean Jaurès.
Bien sûr, allez, tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.